Seigneur notre Dieu, nous te disons merci d'avoir été de ceux-là qui ont participé à cette table de communion avec toi. Cette table qui rappelle les saluts que nous avons obtenus de toi. Nous prions, Seigneur, que nous restions attachés à toi et que tu nous donnes la force d'avancer et de ne jamais abandonner l'espérance sur laquelle nous avons construit notre foi. Permets, Seigneur, que lorsque tu reviennes prendre ton Église, tu trouves chacun de nous disposé et prêt à aller avec toi. Affermis notre foi du jour le jour et permets que nous soyons sensibles à ta volonté dans notre quotidien. Nous te les prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à agir dans votre vie.
Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer juste un peu pour le Seigneur? Et c'est fini déjà. Bonjour. Gloire au Seigneur. Ouais, on peut pousser des cris de joie parce que le Seigneur le mérite. Il est notre roi et il mérite pleinement tout ce que nous lui offrons cet après-midi. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? J'espère que... Apparemment, il y a certains qui ne sont pas jeunes. Je pensais que c'est tout le monde qui mettra la main au-dessus. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle? Ah, voilà, là, quand même, c'est plus mieux. Amen. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment, pour cet après-midi. Ça fait très longtemps. Personnellement, ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas tenu devant vous. Et je dis merci à Dieu qui nous offre encore cette opportunité et ces privilèges. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est votre frère, Joe Ateni, l'un des membres de cette paroisse. Voilà, j'aime Dieu et... Je pense que c'est tout ce que je peux dire cet après-midi sur moi. Alléluia. Et cette semaine, j'étais un peu nostalgique. Et bon, une bonne nostalgie, ne vous en faites pas. Et on a cité un peu ces versets au début du culte où David est en train de dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur. » Alléluia. Et du coup, toute la semaine, je me suis rappelé d'un cantique qu'on chantait quand on était à l'Ekodim en Swahili. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous le chantez aussi. Bon, certains peut-être le connaissent. Ah, il y a le pianiste qui est là. Bon, vous allez excuser ma voix, je ne suis pas chanteur. Ça disait « Nilifuraiya waliponiambia tuende nubani mwabwana » Encore une fois. « Oh, nilifuraiya waliponiambia tuende nubani mwabwana » Vraiment, vous laissez au chant très seulement. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Et toute cette semaine, en tout cas, j'ai pensé à ces cantiques. Et il y a une question qui me venait, mais est-ce que nous sommes encore dans la joie aujourd'hui quand on nous dit « Allons dans la maison du Seigneur » Est-ce que le dimanche, quand on s'est réveillé, on s'est dit « Ça, c'est le jour du Seigneur » Est-ce qu'il y a encore cette joie qui remplit nos cœurs et qui dit « Non, je dois partir à tout prix » Ou alors, c'est devenu juste un jour comme un autre. On a même créé une maladie du lundi, lundiose, ou bien il y a aussi une maladie du dimanche qui est venue. Bon, mais j'ai prié le Seigneur que cette joie-là qui a animé nos cœurs dans le passé puisse animer encore nos cœurs et que toute la fois qu'il s'agit de venir dans la maison du Seigneur, qu'il y ait cette joie qui inonde et qui déborde dans nos cœurs. Alléluia. Merci beaucoup. Cet après-midi, pendant quelques minutes, nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé « L'humilité, un caractère en voie de disparition ». L'humilité, un caractère en voie de disparition. L'humilité, un caractère en voie de disparition. Lisons quelques passages. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 à 14. La Bible dit ce qui suit. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Le deuxième passage, c'est dans Luc chapitre 18, le verset 9 au verset 14. Luc chapitre 18, verset 9 au verset 14. Il est écrit, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ces collecteurs d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, s'éteignait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. L'humilité, un caractère en voie de disparition. Pourquoi il est important pour nous de parler de l'humilité? Parce que depuis la chute de l'homme, l'homme par nature est orgueilleux. Qu'on le veuille ou non, dès que nous naissons, il y a une sémence d'orgueil qui est déjà plantée dans nos cœurs depuis que Adam et Ève ont péché contre Dieu. Et cet orgueil, si il ne peut peut-être pas se manifester dans nos relations les uns envers les autres, dans notre relation avec Dieu, cet orgueil se manifeste toujours. Pourquoi? Parce que depuis des milliers d'années, il y a toujours eu ces problèmes, c'est que l'homme veut toujours tout faire pour se séparer de Dieu. Consciemment ou inconsciemment, tout ce que l'homme fait du jour au lendemain, c'est une façon d'enlever Dieu de sa société ou de son environnement. Pourtant, c'est une chose qui est d'abord impossible, mais l'orgueil humain veut nous faire croire, veut faire croire à l'homme qu'il peut tout avec ou sans Dieu. Au point qu'il y a même certains qui ont commencé à développer des idées disant que Dieu n'existe pas et que les choses sont venues de nulle part, ainsi de suite. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a cet orgueil qui veut nous faire croire que nous pouvons tout par nous-mêmes. Donc, en entrant déjà dans ces messages, j'aimerais juste nous dire qu'on ne peut pas tout par nous-mêmes. C'est impossible. Alléluia. Et à cause de cette nature qui est deux fois dans l'homme, il arrive des moments même quand on s'est converti, on revient dans le Seigneur, cet orgueil-là est encore là. Il faut y travailler du jour au lendemain. C'est une semence qui généralement ne sort pas du coup. D'ailleurs, c'est quelque chose avec lequel on se bat tout le jour. Il n'y a jamais un jour où on doit arrêter de veiller sur l'état de notre cœur afin de ne pas être orgueilleux. Parce qu'il peut arriver juste une circonstance qui vient révéler l'orgueil qui était caché dans nos cœurs. Il y a des gens qui, tant qu'il n'a pas encore touché l'argent, vous croirez qu'il est humble. Le jour qu'il commence à toucher l'argent, vous vous dites, mais comment ces frères qui étaient si humbles est devenu orgueilleux? Non, il n'a jamais été humble. C'est juste que l'argent cachait son orgueil. Alléluia. C'est pourquoi il est important pour nous, non seulement de parler de l'humilité, mais surtout de veiller sur notre cœur afin de demeurer humble devant le Seigneur. Parce que si on n'est pas humble, nous nous créons nous-mêmes des problèmes. Parce qu'un orgueilleux, même quand il sait qu'il a besoin d'aide, il va tout faire pour le cacher, comme si c'est nous qui allons souffrir à sa place. Il a un problème, vous pouvez remarquer que ses frères ou cette sœur est en train de souffrir, mais par orgueil, il les cache. Comme si plus il devient orgueilleux, plus les problèmes vont s'éteindre. Au contraire, ça va s'amplifier et tu risques de te suicider. Gloire au Seigneur. Et c'est malheureux de voir que même en milieu chrétien, où on devait être les plus humbles possible, en réalité, c'est l'endroit où l'orgueil commence à plus se manifester. et on les cache derrière des phrases disant humblement parlant. Bon, c'est par humilité que je l'ai dit, mais en réalité, moi, vous savez, en réalité, c'est l'orgueil qui s'est manifesté. Mais on pense que parce que j'ai utilisé par humilité, c'est du coup je deviens humble. Parce que moi, je crois qu'en réalité, quand nous sommes humbles, ce n'est pas à nous de les dire, c'est aux autres de les remarquer et de les dire à notre place. Dites-moi dans la Bible, là où il y a quelqu'un qui a dit que je suis, à part peut-être Paul, mais je signale que Paul le disait, je parle à la manière des hommes. Alléluia. Donc il dit, mais si je me permettrais de parler comme un homme qui peut se vanter, je vais alors me vanter. Mais en lui-même, il n'était pas orgueilleux. Parce que s'il devrait mettre en avant tout ce qu'il était et tout ce qu'il connaissait, je vous assure, il n'y a personne qui pourrait s'élever devant Paul. Alléluia. Et nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 9, rapidement par rapport au livre. Le livre de 2 Chroniques, au fait, quelques caractéristiques, c'est que premièrement, les histoires qu'on nous relate dans le livre de 2 Chroniques, ce sont les mêmes histoires qui sont relatées dans 1 et 2 rois. Donc les histoires que vous trouverez dans les livres du 1er et du 2e roi, et ce sont les mêmes histoires qu'on répète encore dans 2 Chroniques. Mais la seule différence, les quelques différences qui se manifestent dans ces livres de 2 Chroniques, c'est que contrairement aux livres de 1 et 2 rois qui retracent les parcours de tout le roi, des deux royaumes divisés de Juda et d'Israël, 2 Chroniques se concentre uniquement sur le roi de Juda. Donc, il ne présente que les rois qui ont régné sur le royaume du sud, qui était le royaume de Juda, parce qu'à un moment donné, Israël a été divisé en deux royaumes. Et 2 Chroniques, lui, il ne se concentre pas sur les rois qui ont régné en Israël, mais il s'est plus concentré sur les rois qui ont régné dans Juda. Mais non seulement ça, malgré qu'il parle des rois qui ont régné dans Juda, il ne parle pas aussi de tous les rois. Il cite que quelques rois et surtout les rois qui ont ramené le cœur du peuple vers Dieu. On est ensemble. Il ne parle pas de certains rois qui ont détourné le cœur du peuple de Dieu, mais il présente plus les rois qui ont ramené le cœur du peuple vers Dieu parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël s'était beaucoup détourné de Dieu. Pourquoi il le fait? Parce que premièrement, celui qui a écrit ce livre s'adressait aux peuples juifs qui sont revenus d'exil. C'est une longue histoire que je ne saurais pas raconter, mais prenons ça comme ça l'essentiel. Le peuple d'Israël était exilé et après plusieurs années, ils sont revenus. Mais comme on les connaît tous, lorsque quelqu'un passe plusieurs années loin de sa culture, il finit par perdre un peu de sa culture. Et ces peuples, vu qu'ils ont beaucoup souffert aussi dans l'exil, ils avaient un désespoir qui ont rempli leur cœur. Ils avaient un peu perdu leur culture et ils se demandaient, est-ce que c'est encore possible pour nous de retrouver ce qu'on a entendu dire que nos pères ont vécu? C'est comme ça que celui qui a écrit les livres de Chroniques a écrit cela en leur montrant les différents réveils qui ont eu lieu, différentes réformes qu'il y a lieu, des différentes restaurations ou réconciliations de leur foi, pour leur montrer que ce n'est pas la première fois qu'il y ait de mauvaises choses qui se passent au milieu de vous, mais toutes les fois, il y a eu toujours Dieu qui nous a fait du bien, qui nous a ramenés. Le but, c'était de restaurer un peu un espoir de rédemption dans le cœur du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un désespoir était déjà venu. Ils ont vu la souffrance qu'ils ont endurée pendant des années. Ils sont revenus dans leur pays qui était détruit déjà, mais il fallait qu'ils reconstruisent. Mais malgré la reconstruction, la menace pesait encore puisqu'ils étaient encore... Ils sont revenus d'exil, mais il y avait encore des puissances qui pouvaient dominer sur eux. Et pour restaurer un peu leur confiance, leur foi et leur donner une espérance en un avenir meilleur, c'est comme ça que l'auteur de 2 Chroniques s'est mis à dire ou à écrire en leur faveur, à leur intention. C'est quelques récits de la Bible qui montrent le réveil. Et là, nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 7, ça commence un peu tôt, c'est la réponse de Dieu au fait à la prière des dédicaces que Salomon fait. Parce que cette partie, c'est Salomon qui est devenu roi et puis il s'est mis à construire le temple de Dieu parce que c'est ce que le Seigneur avait dit à David, son père. Et il s'est mis à construire, quand il a fini à construire le chapitre 6, il se met à dédier le temple. Il fait un certain nombre de prières afin de dédier le temple. Et après avoir fini sa prière et après avoir offert les holocaustes et rentré chez lui, c'est comme ça que l'Éternel lui apparaît maintenant pour lui répondre, pour exaucer par rapport à sa prière. Et vous comprendrez un peu mieux cette partie que nous avons lue un peu plus tard. Et c'est comme ça qu'une réponse que Dieu lui dit par rapport aux prières que Salomon est en train de faire, il lui dit, même quand il m'arrivera de fermer les cieux, et même quand la pluie ne tombera plus et que j'enverrai des pestes et toutes ces choses sur mon peuple, il dit, mais si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies, alors moi, je serai en train de lui exaucer ou de l'exaucer. Alléluia. C'est un peu ça le contexte, en fait, du passage. Donc, quand nous lisons ce passage, sachant que c'est l'exaucement à une prière que le roi Salomon avait faite à Dieu pendant qu'il était en train de dédier le temple qu'il venait de construire au Seigneur. Pourquoi je voulais commencer par ce contexte-là? Parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu le contexte que l'on vit aujourd'hui. On est en train de voir autour de nous, ce sont des morts par-ci, par-là, ce sont des maladies par-ci, par-là. Quelquefois, on a même envie de chercher Dieu, mais on n'y arrive pas. On cherche même à travailler, ça ne marche pas. Des fois, même dans les études, on a l'impression que rien ne va. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce que réellement, le fait que nous partions chercher Dieu, est-ce que vraiment Dieu nous écoute encore? Alléluia. Est-ce que vraiment ça marche encore? Il y a peut-être quelqu'un qui est venu avec un désespoir qui a commencé à remplir son cœur. Il essaie de regarder son avenir, il voit que c'est un peu noir. Il a l'impression que sa vie est un peu mise en arrêt. Il a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Et je pense que ces livres, ces contextes veulent juste nous rassurer. La Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Car un chien vivant vaut mieux encore un lion mort. Vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. C'est juste pour nous dire que la seule preuve que l'avenir est encore meilleur, c'est le fait que nous soyons encore en vie. Parce qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Alléluia. Amen, amen. Essaye de dire à ton voisin, il y a encore de l'espérance. L'humilité, un caractère en voie de disparition. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste poser les bases avec ce principe que j'aimerais que nous puissions retenir. C'est que devant Dieu, nous avons tous la même valeur. J'aimerais juste commencer par là parce que ça sera important pour la suite, pour nous aider à bien comprendre la suite. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici, il n'y a personne qui a plus de valeur devant Dieu que l'autre. Ce n'est pas parce que moi, je me tiens devant vous en train de vous parler que ça veut dire que j'ai plus de valeur que vous devant Dieu. Nullement. La preuve, c'est que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. S'il y avait différence des valeurs, ces versets n'auraient pas été le même. On aurait dit, car Dieu a tant aimé les Américains, il a donné ceci. Car Dieu a tant aimé les Africains, il a donné ceci. Mais Dieu nous a aimés tous de la même manière et il a donné le même prix pour nos âmes à nous tous. Parce que devant lui, nous avons le même prix, nous avons la même valeur. Noir, blanc, riche, pauvre, court, élancé, je ne sais pas quoi est-ce que vous allez décrire encore. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur. La preuve est que pour le salut de toutes les âmes, Jésus seul est mort une seule fois. Si c'était que chacun a une valeur particulière auprès de Dieu, chacun aurait eu un prix particulier pour le rachat de son âme. Parce que quand nous venons dans un magasin, nous achetons des articles selon les différentes valeurs des articles que nous cherchons. On peut acheter le même téléphone, la même marque du téléphone, pardon, mais les valeurs différentes. Tu viens acheter un iPhone, mais l'autre achète un iPhone 14, l'autre achète un iPhone 14 Pro. Et l'autre achète un iPhone 14 Pro Max. Déjà, c'est trois prix différents que vous aurez. Mais devant Dieu, il n'y a pas des âmes simples, il n'y a pas des âmes pro, il n'y a pas des âmes Pro Max. Nous avons tous la même valeur devant le Seigneur. Alléluia. Alors, pourquoi je l'ai dit? Parce que premièrement, on doit reconnaître d'abord cela dans nos cœurs. Mais aussi, cela doit nous permettre et doit être la chose principale qui nous apprenne à vivre dans l'humilité. Parce que si tu méprises ton frère, sache que si Dieu n'aime pas ce que tu fais envers ton frère, il te punira. Ce n'est pas parce que c'est toi ou parce que moi je suis sur la chair et puis j'ai certains privilèges que vous n'avez pas. Net. Devant Dieu, nous avons tous la même valeur. Peu importe notre race, peu importe notre tribu, Christ est mort pour nous tous. C'était le seul prix et il a fait une seule fois pour nous tous. Retenons bien cela devant Dieu. Nous avons tous la même valeur. Nos âmes ont toutes la même valeur devant le Seigneur. Il n'y a personne qui est plus valeureux ou plus valeureuse devant Dieu que l'autre. Quand il nous regarde tous, il nous regarde tous de la même manière. Quand il nous regarde tous, c'est le même amour. Je vais d'ailleurs vous choquer même. Vous voyez tel que nous sommes là. De la même manière que Dieu nous aime. Dieu aime cette prostituée-là qui part chaque samedi dans ces maisons-là pour coucher avec les autres. Quand tu nous regardes, c'est le même amour. Il n'y a pas de différence d'amour. Parce que si c'était ça, il aurait attendu que nous revenions vers lui pour mourir à la croix. Mais il est écrit que Dieu prouve son amour envers nous en sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ces bandits-là qui font des massacres tout le jour devant Dieu, ils nous regardent avec le même amour. Ça n'a pas changé. Et ce n'est pas parce que nous avons cru que l'amour devient plus grand. Non, c'est toujours le même amour parce que nous avons tous la même valeur devant lui. Gloire au Seigneur. Alors, en sortant aujourd'hui, tu peux tout oublier, mais garde à l'esprit que tu as la même, tu as une valeur devant Dieu et ton voisin a la même valeur devant Dieu et toute autre personne que tu rencontreras sur le chemin, peu importe son apparence physique, nous avons la même valeur devant Dieu. Par rapport à l'humilité, on va essayer de définir en fait l'humilité, mais en deux temps, en parlant de qu'est-ce qui n'est pas l'humilité et qu'est-ce que c'est l'humilité. On va essayer un peu d'aller dans ces deux sens rapidement et j'espère que ça va nous aider chacun à comprendre en fait c'est quoi être humble et surtout nous aider à chercher à demeurer humble tout le jour de notre vie. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est toujours ensemble, hein? Super, allons-y. Première chose, qu'est-ce qui n'est pas l'humilité? Premièrement, ce qui n'est pas l'humilité, c'est ne pas reconnaître sa valeur ou la valeur que Dieu nous donne. Ne pas reconnaître sa valeur ou la valeur que Dieu nous donne. C'est-à-dire quoi? Ne pas reconnaître ce que nous sommes, ce n'est pas ça être humble ou faire semblant, dire non, vous voyez, bon, je suis trop humble et tout, ce n'est pas ça. Quelquefois même, dire ce qu'on est dans le Seigneur ou ce qu'on peut être capable de faire, ce n'est pas l'orgueil. Je vais m'expliquer en avançant, vous comprendrez. Il y a des gens qui pensent que s'ils font semblant de ne pas connaître ce qu'ils sont, ou bien s'ils ne reconnaissent pas la valeur qu'ils peuvent avoir au milieu des hommes, alors ils sont les plus humbles. C'est faux. Les hommes les plus humbles de la Bible étaient des hommes qui connaissaient très bien qui ils étaient et ils les disaient à haute voix devant tout le monde. Venir là faire semblant comme si, bon, vous voyez moi, bon, que les autres au moins disent, moi, je ne sais pas dire ce que je suis. Ce n'est pas ça être humble. Nous avons une valeur, Dieu nous a donné une valeur. Et reconnaître cette valeur, c'est important dans notre marche avec le Seigneur. Parce qu'il est important que nous connaissions, que nous sachions qui nous sommes en Dieu, qu'est-ce qu'il a fait de nous pour vivre comme il se doit sur cette terre. La Bible dit qu'un héritier, aussi longtemps qu'il est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Lorsque tu es enfant d'un riche et que tu ne sais pas que ton père est riche et que tout ce qu'il a te revient de droit, tu vivras comme un pauvre alors que tous les biens qui sont dans la maison t'appartiennent. Tu croiras que tu es humble, tu ne veux pas montrer aux gens que tu es riche, c'est faux. Bon, permettez-moi les termes, tu es un peu bête parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Lisons un peu quelques personnes dans la Bible. Jean chapitre 1, le verset 19. Le verset 19 à 23, il s'agit de Jean-Baptiste. Qui va dire que Jean-Baptiste n'était pas humble? N'est-ce pas qu'il était humble? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais écoutez ce que cet homme dit. Verset 19. Bon, on peut juste lire le verset 23. Verset 22, le verset 23. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'es-tu de toi-même? Il dit, moi, dis-tu, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Esaïe. Il connaissait sa valeur. Il dit, vous, tel que vous me voyez là, malgré l'apparence que j'ai, vous voyez ce qu'Esaïe a dit il y a des années. C'est moi. C'est ce que je suis. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. C'est ça, moi. Mais je ne le dis pas pour me vanter devant vous, non. Je vous dis juste pour que vous sachiez qui je suis. Alléluia. Comme je l'ai dit, on comprendra ça un peu plus tard. Une deuxième personne, Jésus lui-même, le plus humble de tout le monde depuis que le monde existe. Écoutez ce qu'il dit, Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il dit ça à Marie. Il ne faut pas chercher la résurrection très loin. Je suis là, c'est moi. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Est-ce qu'il est orgueilleux? Nullement. Il reconnaît juste qui il est dans le Seigneur. Et il sait ce que le fait de savoir qui le peut amener autour de lui. Alléluia. Le même Jésus, Jean chapitre 14, le verset 6, je crois un verset que nous connaissons, il dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Alors arrêtons de faire semblant. Ce n'est pas parce que tu ne reconnais pas ou le fait que tu te dises que tu ne reconnais pas ta valeur que tu deviens humble. Il faut reconnaître qui tu es dans le Seigneur. Cherche à connaître qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi. Ça te permettra d'être une bénédiction pour tout le monde autour de toi. Deuxième chose, qu'est-ce qui n'est pas l'humilité? Deuxième, c'est refuser d'accomplir une tâche tout en ayant le potentiel pour cela. Refuser d'accomplir une tâche tout en ayant le potentiel pour accomplir cette tâche-là. C'est-à-dire, tu arrives dans un endroit, tu vois bien qu'il y a un problème. Et tu te regardes, tu te dis, je peux régler ces problèmes. Mais puisque peut-être personne n'est venu te parler ou personne ne sait que tu as ces potentiels, toi tu te dis, non, je suis humble. C'est pas ça être humble. Tu vois qu'il y a une tâche que tu peux accomplir. Tu as tous les potentiels, tous les talents pour faire cela. Et puis tu te dis, je ne vais pas l'accomplir. C'est pas ça être humble. C'est même être orgueilleux. Tu as besoin que les gens viennent d'abord te solliciter. Certains partent même très loin. On va d'abord les supplier. Et après l'avoir supplié, il va vous donner l'impression qu'il n'est pas d'accord. Et puis le lendemain, vous le voyez venir à la dernière minute. Après, il dira qu'il est humble, franchement. Franchement. Donc, tu as tout fait pour être sollicité, pour que quand tu viendras, tout le monde, ah, il est là. Enfin, mes filles, imaginez un peu cette scène. Est-ce que c'est vraiment ça, être humble? Être humble, c'est je viens dans un endroit, je viens par exemple à l'église, je me rends compte qu'il y a un vide, mais je me dis que je peux combler ces vides-là. Du coup, je viens et j'ai même à cœur de le faire. Tu viens, tu commences à combler les vides. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à 37. L'histoire de David. David est envoyé par son père pour apporter la nourriture à ses frères. Il arrive, il entend un Philistin qui se vient et il lance un défi à Israël. Quand il lance ce défi, tout le peuple commence à trembler, tous les soldats. Et la Bible nous dit que ça continue ainsi pendant 40 jours. Il arrive, il trouve que pendant 40 jours, la guerre a cessé parce qu'il y a un défi qui est lancé, mais personne ne veut lancer ce défi. Il n'a même pas attendu qu'on lui dise, lui-même a commencé à demander, « Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?» On lui explique. Il dit, « Et qu'est-ce qu'on fera à celui qui vaincra ces Philistins ?» On commence à lui expliquer. Et ce n'est même pas lui qui allait chez le roi. Quand les gens ont entendu sa curiosité, ils sont allés voir le roi. Ils disent, « Roi, il y a un jeune homme ici qui est en train de dire qu'il peut aller combattre. » David vient devant le roi et dit, « Roi, ne vous en faites pas. Moi, je suis là, j'irai combattre ces Philistins. » Le roi lui-même regarde d'abord David, il regarde les Philistins. Oh, naoyo, et kokanite. Il dit, mais David, toi tu es un enfant. L'autre est là, c'est un guerrier depuis son enfance. Et David commence à déclarer, il dit, roi, quand j'étais dans la forêt, pendant que je gardais les brebis de mon père, il y avait l'ours qui venait, il y avait des lions, je les suivais, je l'attaquais, je les terrassais. Et il ajoute en disant, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours et de lion, c'est le même qui me délivrera face à ces Philistins. On ne lui a même pas demandé. Il est arrivé avec un courage, je ne sais pas si ça vient d'où. Il s'est dit que puisqu'il y a un défi, puisqu'il y a une tâche à accomplir et qu'il n'y a personne, mais que je peux lancer les défis, alors je me lance dans la bataille. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, si tu as un potentiel que tu peux mettre au service de Dieu, au service des autres, n'hésite pas de le faire. C'est pour ça que Dieu te l'a donné. Tu n'as pas ce potentiel pour te les vanter. Tu as ce potentiel pour le mettre au service des autres. La Bible dit que chacun de vous, comme un bon étendant des différentes grâces de Dieu, mette cela au service des autres. Tout ce que Dieu nous donne en réalité, ce n'est que bénéfique pour les autres. Lorsqu'on ne les met pas au service des autres, on est en train de faire chômer ce que le Seigneur nous a donné. Si nous ne devenons pas une bénédiction par ce que Dieu nous a donné dans sa grâce, nous perdons notre temps et nous sommes en train de faire perdre la valeur de ce que le Seigneur nous a donné. Quand tu vois une tâche, tu peux le faire, vas-y, fais-le. Sauf si le Seigneur te dit « Attends ». Mais tant que Dieu ne t'a pas dit « Attends » que tu sens le faire, lance-toi et fais-le. Et que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Alors, rapidement, vu que le temps est en train de nous presser, qu'est-ce qu'est alors l'humilité? Je vais essayer d'être rapide et de finir. C'est quoi l'humilité? Si l'humilité n'est pas le fait de ne pas reconnaître sa valeur ou de refuser d'accomplir une tâche, qu'est-ce que l'humilité premièrement? L'humilité, c'est avant tout une disposition de cœur qui reconnaît que Dieu est vrai et que tout homme est menteur. Je répète, l'humilité, c'est avant tout une disposition de cœur. Donc, ça commence d'abord là à l'intérieur, qui commence par reconnaître que Dieu est vrai et que tout homme, y compris moi-même, nous sommes menteurs ou nous sommes faux. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Être humble devant Dieu, c'est avant tout prendre conscience que peu importe les œuvres que j'ai déjà accomplies, devant Dieu, je ne suis rien. Devant Dieu, en réalité, tout ce que je mérite, c'est la mort. Car il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est encore dit qu'il n'y a aucun qui n'est juste, personne ne cherche la face de Dieu. Alors ça commence d'abord par une disposition de cœur. Quelle est la disposition de ton cœur quand tu poses les actions que tu poses? Quelle est l'intention, quelle est la motivation quand tu fais ce que tu es en train de faire? Quand tu prononces les mots que tu es en train de prononcer, quelle est la motivation derrière? Comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait de ne pas reconnaître sa valeur, mais attention. Des fois, reconnaître sa valeur finit par nous amener dans l'orgueil si nous ne veillons pas sur l'état de notre cœur. Alléluia. C'est reconnaître devant le Seigneur, venir devant Dieu et dire, en tant qu'être humain, ma nature m'amène toujours à me rebeller contre Dieu. Mais que si je peux m'approcher de Dieu, c'est parce qu'il est vrai et qu'il peut me faire grâce. C'est Dieu qui doit d'abord reconnaître notre humilité. C'est devant lui qu'on doit s'humilier. C'est d'abord notre cœur en marchant, peu importe ce que le Seigneur a fait, peu importe ce que nous connaissons de nous-mêmes, c'est venir en marchant tout en regardant Dieu, disant, Seigneur, c'est toi qui es vrai. Même moi, je suis pécheur. Même moi, je ne mérite rien. Parce que s'il fallait que Dieu agisse vis-à-vis de nous par rapport à nos mérites, aucun homme ne serait vivant sur cette terre. Nous serions tous morts. Mais parce qu'il est Dieu qui nous aime et il est bon, il nous laisse encore en vie. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand vous lisez le chapitre 6, 2 Chroniques chapitre 6, du verset 26 à 30, c'est là où Salomon est en train de faire cette prière à Dieu. Il dit ceci au chapitre 6, le verset 26 à 30. Il dit à Dieu, Seigneur, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ces lieux et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Salomon dit à Dieu, même quand il arrivera que le peuple que tu as choisi se détourne de toi et que le ciel sera fermé parce qu'ils ont péché contre toi, s'ils viennent prier en ces lieux, Seigneur, exauce-les. Il est en train de dire, c'est ton peuple, mais il peut arriver que puisqu'ils sont dans la chair, qu'ils se détournent de toi. Mais même quand ça arrivera, le jour qu'ils vont reconnaître leur tort et qu'ils viennent prier dans ces temples ici, Seigneur, exauce-les. Et c'est comme ça que Dieu répond, il dit, quand je serai en train de fermer les ciels, s'il y aura même une personne où tout le peuple revient, il reconnaît, il s'humilie devant moi et il commence à reconnaître ses mauvaises voies, alors moi je l'exaucerai et j'ouvrirai le ciel envers lui. Gloire au Seigneur. Quelquefois nous marchons, on regarde autour de nous, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de Dieu? Des fois nous prions, mais avec beaucoup d'orgueil. On se dit, mais Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter tout ça. Pourquoi ces problèmes arrivent? Si on checkait très bien, vous êtes sûr que nous sommes vraiment innocents. Être humble, c'est d'abord avoir cette disposition-là dans notre cœur. Reconnaître dans toute notre marche qu'en réalité, ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Peu importe, même si j'ai beaucoup fait pour le Seigneur aujourd'hui, mais d'abord, c'est la grâce de Dieu. S'il m'ôtait juste sa grâce, c'est fini pour moi. S'il enlevait juste sa grâce et son amour envers moi, tout sera fini pour moi. Et chaque jour, on doit le reconnaître. Si l'on veut demeurer humble, on doit toujours reconnaître cela. C'est Dieu qui demeure vrai. Et on doit juste apprendre à s'humilier. On peut se dire, mais je n'ai pas péché contre Dieu, j'ai checké. Mais même quand nous péchons, que la culpabilité commence à ronger nos cœurs au point qu'on n'essaie plus chercher Dieu. Vous pensez que ça, c'est bon aussi? Des fois, on s'assoit, juste des petites instructions que Dieu nous donne, des fois, on n'a pas su le faire. Et ça crée des milliers de problèmes autour de nous. Nous n'avons pas besoin de nous battre. Revenons devant le Seigneur, humilions nos cœurs devant lui. Quand nous venons prier, c'est nos cœurs qui doivent se répandre devant le Seigneur. La deuxième des choses par rapport à l'humilité, c'est que lorsqu'on a appris à s'humilier devant Dieu, lorsque nos cœurs ont cette disposition devant lui, deuxième des choses, et je pense que je serai en train de finir par là, c'est que l'humilité, être humble, c'est aussi user de sa position ou de son rang social pour servir les autres. User de sa position ou des rangs sociaux pour servir les autres. Frères et sœurs dans le Seigneur, tels que nous sommes là, il y a des choses que toi tu as, que Dieu t'a donné parce que ton voisin n'en a pas, pour que par toi il puisse recevoir cela. Quand le Seigneur se met à faire du bien à un homme, ce n'est pas que juste pour que tout le monde soit en train d'apprécier cet homme, mais c'est pour que par le bien qu'il a fait à cet homme, que plusieurs autres personnes derrière lui soient bénies aussi par lui. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça a toujours été ça le principe. Quand le Seigneur fait passer un homme ou une personne à l'avant, c'est pour que plusieurs autres personnes derrière lui puissent profiter de cette grâce-là. C'est comme ça qu'Abraham, qui a été béni par Dieu, est devenu la source de bénédiction pour toute une génération. Même pas pour toute génération, pour des milliers de générations plus tard. Parce que c'est ça ce que le Seigneur fait. Il peut commencer par faire des choses dans ta vie parce qu'il est en train de viser, non pas toi, mais il est en train de viser ton prochain qui est là à côté de toi. Il y a même quelqu'un qui a dit que lorsque tu vois le Seigneur en train de faire certaines choses que tu aimerais qu'il fasse dans ta vie autour de toi, c'est que ton tour n'est pas loin. Alléluia. Des fois, Dieu nous donne une certaine position, pas juste pour que les gens nous acclament, pour qu'on puisse se vanter des choses, pour qu'on puisse être bien, pour que nous soyons bien, mais aussi pour que nous puissions aider les autres à être bien. C'est ça le but de Dieu. Et être humble, c'est reconnaître déjà que ce que le Seigneur m'a donné, les talents, la grâce qu'il m'a donné, c'est pour que je puisse aider aussi les autres à devenir meilleurs. Si on ne sait pas faire ça, on peut dire tout ce que l'on veut. L'humilité a déjà disparu de notre cœur. C'est malheureux de voir des gens qui, parce que Dieu leur a donné une position élevée, ils commencent à voir tout le monde comme s'ils ne valaient plus rien. Peut-être même pour que tu reçoives cette bénédiction-là, il y a eu plusieurs personnes que Dieu a mis en jeu pour que ça t'atteigne. Mais du coup, quand ça t'atteint, tu oublies toutes les autres personnes qui t'ont aidé à arriver là-bas. Peut-être c'est juste quelqu'un qui avait parlé de toi et puis on s'est dit, bon, ah ok, bon, on va voir. Et puis du coup, bon, tu viens, tu commences. Et du coup, tu oublies tout ce qui s'est passé bien avant. Et après, tu ne sais plus être là pour les autres, tu ne sais plus aider les gens. Pire, il y a même certains qui commencent à manipuler les autres. Donc, ils s'entourent des personnes qui savent que ces gens, je peux bien les manipuler pour servir à mon intérêt. Ça, c'est ce qui déjà se passe dans le monde. Pourquoi dans l'Église aussi, on doit encore vivre les mêmes choses que ce qui se passe dans le monde? Alléluia. Pourquoi c'est ici que là où la solution devrait être, c'est là où les problèmes commencent à s'empirer? Tout ce que Dieu nous donne, notre position, toutes les bénédictions, tout ce que l'on peut appeler bénédiction, c'est pour servir les autres. C'est pourquoi toutes les fois que nous prions le Seigneur, ça ne doit pas être motivé par un sentiment égoïste. On doit toujours voir en vie les autres parce que quand Dieu cherche à bénir les hommes, c'est pour toutes les autres personnes. C'est pourquoi il a pris Abraham, pour que par Abraham, il puisse faire naître un peuple, pour que par ses peuples, toutes les nations de la terre soient bénies. Si Abraham n'avait pas accepté de suivre Dieu et d'être cette source de bénédiction, vous et moi, on serait perdus. C'est puisqu'il a accepté. De lui est né Isaac. D'Isaac est né Jacob. De Jacob est né 12 enfants. De ces 12 enfants, c'est devenu 12 tribus d'Israël. Et d'Israël, le Messie est venu et le Messie, toute l'humanité, peut espérer au salut. Ça a toujours été un cycle. Si tu es béni aujourd'hui, sache que ça a été un cycle. Il y a peut-être quelqu'un qui a prié pour toi. Il y a peut-être quelqu'un qui a parlé de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui t'a soutenu d'une manière ou d'une autre. Alors quand toi, tu arrives dans une certaine position, tu reçois certaines facilités, c'est pour aider ces gens-là. Parce que tant qu'il n'y aura pas cela dans nos cœurs, je peux vous assurer qu'on va pleurer, on va se faire très mal. Il n'y a rien que tu n'aies reçu de Dieu qui ne soit pas là pour être bénéfique pour quelqu'un autour de toi. Alors pose-toi la question, depuis que tu as reçu peut-être cette promotion, depuis que tu as eu cette position, depuis que tu as eu certaines connexions, comme on l'a dit, qui a bénéficié de cela, à part toi? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire, si aujourd'hui vraiment, je peux avoir réussi telle chose, c'est parce qu'il y a eu un tel qui a été là. Je ne pensais pas que ça soit possible, mais puisque telle personne m'a vu, aujourd'hui je suis ce que je suis. Et c'est pourquoi l'Église existe. Au début de l'Église, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. La Bible dit que personne ne disait que ceci lui appartenait à propre, mais au contraire, ils allaient très loin. Certains vendaient même leurs parcelles et venaient donner le bien pour qu'on distribue à chacun selon les besoins. Au point que quand il y a eu des gens qui ont voulu violer ces principes, ils étaient morts. Ananias et Saphira, sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, quand tu pars prier, quand tu demandes à Dieu de te bénir, quand tu demandes même à Dieu de te rendre riche, toutes les fois que tu feras cette prière, aie toujours en vue quelqu'un ou des gens que tu dois bénir, ou pour qui tu dois être une source de bénédiction. Parce que c'est ça aussi être humble. Quelquefois, l'humilité au-delà juste d'user de notre position, de notre rang social, pour aider les autres. Quelquefois, l'humilité, c'est se dépouiller même de toute cette position-là pour le bien-être de tout le monde. Alléluia. Quelquefois, c'est se dire, avec cette position ici, c'est vrai, ça m'arrange moi, mais je me rends compte que ça n'arrange pas les gens autour de moi. Je me dépouille d'abord de ça pour un moment, pour vite aider les autres. Je mets un peu tous ces titres-là de côté parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une certaine aide. Et il n'y a pas deux, trois exemples dans la Bible. Je vais juste prendre l'exemple de Jésus. Philippiens chapitre 2, du 1er jusqu'au 8e verset. Paul dit, je pense qu'on va juste lire ça, s'il vous plaît, pardonnez-moi. On va lire ça parce que c'est tellement merveilleux ce que la Bible est en train de dire. Philippiens chapitre 2. Verset 1 à 8, la Bible dit, « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité des pensées. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort de la croix ou la mort sur la croix. Ça, c'est Christ. Égal à Dieu, reçoit toute l'adoration. Mais il a vu un problème, il dit non. L'humanité est en train de mourir. Dieu est en train de se battre entre son amour et sa justice. Son amour fait qu'il s'est dit, mais je ne peux pas tuer l'homme que j'ai créé. Mais sa justice regarde le péché, s'est dit non, je ne peux pas supporter ces péchés. Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Et Christ vient pour mettre cet équilibre-là. Il manifeste l'amour de Dieu, mais en même temps, il devient le sacrifice qui vient apaiser la justice ou la colère de Dieu. De sorte que lui, il accomplit en même temps l'amour de Dieu et en même temps la justice de Dieu. De sorte que tous ceux qui croient en lui sont justifiés. Mais il a fait ça pour qui? Pour toi et moi. Et la Bible dit même dans Ésaïe chapitre 53, dit, nous l'avons vu comme, voilà, il n'avait ni éclat ni beauté, nous l'avons vu comme puni, frappé des dieux. Mais la Bible dit que c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Les châtiments qui nous donnent, nous, la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous, nous sommes guéris. Il s'est dépouillé de sa gloire, mais pour notre bien-être. Aujourd'hui, nous avons tout pleinement en Christ parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Parce qu'il s'est humilié, il s'est dépouillé de tout ce qu'il était pour que nous, nous soyons sauvés. Entre nous. Entre nous. Est-ce que nous sommes réellement capables de faire ça? Ou tu t'es dit non. Il y a trop de souffrance autour de moi. Mais si je reste là-bas, je ne serai pas aidé. Je dois venir apporter une aide. C'est ça ce que le Seigneur attend de nous. Parce que celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Je dois nous dire la vérité. C'est bon à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais moi qui vous parle, je pense que toute la semaine, ça a été ma prière et je crois que je continuerai avec cette prière pour dire, Seigneur, rends-moi encore plus humble que je ne le pensais. Donne-moi un cœur humble devant toi. Que je ne puisse pas m'élever au milieu de mes frères, non, mais que mon cœur demeure humble. Que peu importe ce que tu feras dans ma vie, que je garde toujours dans mon cœur, que c'est aussi pour que mon frère puisse en bénéficier. C'est aussi pour que ma sœur puisse en bénéficier. C'est aussi pour que plusieurs personnes autour de moi puissent en bénéficier. Et s'il y a une chose que je peux dire en finissant ces messages, c'est que, en réalité, Christ seul demeure le vrai modèle ou le modèle par excellence de l'humilité. Mais pas seulement ça, Christ seul est capable de nous rendre aussi humbles. Parce que sans lui, on ne pourra jamais rien faire. Sans lui, on ne saura jamais être humble. Et moi, cet après-midi, en venant devant vous, c'est la prière qui ne cesse de monter dans mon cœur. Dire à Dieu, Seigneur, je me suis battu par moi-même. Seigneur, j'ai essayé par mes propres efforts. Je n'ai pas pu. Seigneur, j'ai essayé de faire, de multiplier des efforts, mais à un moment donné, sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que l'orgueil, j'ai remarqué que l'orgueil était déjà là. J'ai commencé à croire que j'étais le plus fort parce que je priais beaucoup. J'ai commencé à croire peut-être que je suis mieux parce que du coup, je prêche ta parole. Et j'aimerais juste nous prêter cette prière. Y a-t-il quelqu'un qui veut juste dire à Dieu, Seigneur, je viens m'humilier devant toi. Juste dire à Dieu, Seigneur, je croyais que j'étais bon. Je pensais que vu que je viens à l'église tout le jour, vu que je donne ma vie, vu que je respecte tous ces commandements, alors tout était bon. Mais je me rends compte que mon cœur était devenu orgueilleux sans que je ne m'en rende compte. Je me rends compte que l'orgueil s'était déjà installé. Est-ce qu'on peut juste venir humblement devant, de juste prier pendant quelques secondes? Est-ce qu'on peut lever nos voix et parler à Dieu? Il a juste besoin d'un cœur sincère. Il n'a pas besoin que tu multiplies de mots. Le collecteur d'impôts n'a pas étalé tout ce qu'il était. Il a juste dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi, moi qui suis pécheur. » Ça peut être peut-être ta prière, dis, « Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi grâce. » So na kuitaji leo jo na kuitaji sasa jo na kuitaji leo jo jo akuitaji pokea pokea maisha yangu nautoa nautoa uzima wangu kwa pokea Yesu pokea maisha yangu na utoa uzima Yesu uzima wa. Encore une fois, pokea pokea maisha yangu na utoa uzima Yesu. Encore plus fort. Pokea Yesu maisha yangu na utoa uzima wangu. Seigneur, telle est la prière de mon cœur cet après-midi. Et je prie en même temps pour mes bien-aimés avec qui nous sommes en ces lieux. Seigneur, s'il te plaît, si nous ne voulons pas, Père, impose dans nos cœurs, impose cela dans nos cœurs, le désir de venir encore près de toi. Parce que tu dis que si nous voulons voir ton ciel être ouvert, il faut que nous venions devant toi, nous puissions nous humilier. Si nous voulons voir les choses changer autour de nous, il faut que nous puissions nous humilier devant toi. Avant même de prier, il faut que nos cœurs s'inclinent au devant de toi. Alors Seigneur, je t'en supplie, incline nos cœurs vers toi, incline nos cœurs vers ta parole et fais que cette parole que tu as déposée dans nos cœurs soit une semence qui va porter de fruits et des fruits qui vont glorifier ton Saint-Nom et qui vont nous apprendre à marcher dans ta crainte et dans l'humilité. Laisse que la gloire, la majesté et l'honneur te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse et...